Tempête d'hiver. Louis Fréchette. L'aubergiste avait dit vrai. Moins d'une heure après, nous cheminions à l'aveugle dans des chemins impraticables, en pleine nuit et perdus dans un tourbillon de neige et de grêle dont ne peuvent se faire une idée ceux qui ne l'ont pas vu. Après avoir gravi des escarpements à pic au sommet desquels nos chevaux avaient peine à s'arc-bouter contre le vent, il nous fallait descendre dans d'immenses ravins bordés de sapins géants où ils disparaissaient presque dans des amoncellements de neige mouvante, à moitié étranglés par la rafale. Nous n'avancions plus que le pas naturellement et sans trop savoir où nous allions, car les pauvres bêtes épuisées et aveuglées par le grésil ne marchaient plus que la tête baissée, se laissant guider au petit bonheur. « Si nous tournions bride, » dis-je au cocher, « il est évident que nous ne pouvons guère aller plus loin. » « Revirez, » fit le pauvre homme qui avait l'air de se repentir de ses fanfaronnades de tout à l'heure. « Il est trop tard, monsieur. Je ne vois plus clair, ni mes chevaux non plus. En revirant, nous risquerions de manquer le chemin, et alors je donnerais pas 5 sous de nos 3 pots. » Le docteur ne disait rien, mais j'oserais bien affirmer qu'il n'en pensait pas moins. La situation était presque désespérée, car si nous ne pouvions retourner sur nos pas, il était d'autant plus impossible de nous arrêter là que le froid, jusqu'alors assez supportable, augmentait d'intensité d'une façon terrible et, malgré nos épaisses fourrures, commençait à nous envahir de la tête aux pieds. Nous n'avions pas d'autre alternative. Il fallait avancer. Avancer quand même et à tout risque. Messieurs, j'ai été en détresse un jour sur mer avec bien peu d'espoir d'en réchapper, je vous assure. Eh bien, nulle angoisse de naufragé ne saurait être comparée à ce que mon compagnon et moi nous éprouvâmes ce soir-là, quand nous nous vîmes ainsi perdus dans cette nuit, cette solitude et cette tempête à des milliers d'arpents de toute habitation, peut-être à moitié paralysés par un froid de loup et allant à l'aventure traînés par 2 pauvres chevaux épuisés qui menaçaient de s'abattre à chaque instant dans l'aveuglant tourbillon. La chose ne tarda pas du reste. Tout à coup, notre cheval de brancard s'arrêta net en renâclant, secoué par un accès de tremblement convulsif. Son compagnon de trait venait de perdre pied au bord d'une déclivité et se débattait sur le flanc enseveli dans une fondrière de neige. « Le maudit filion nous a ensorcelés !» s'écria notre malheureux cocher en se précipitant à la tête du second cheval qu'un mouvement de l'autre pouvait entraîner avec lui. « Si nous avons perdu le chemin, « il ne nous reste plus qu'à faire notre prière, messieurs. » Malgré ces paroles désespérées, le pauvre diable avait pourtant réussi à dégager de l'attelage le cheval abattu et sauver ainsi une partie de la situation. Mais que faire maintenant? Laisser le pauvre animal périr dans la neige? Il fallait d'abord savoir si l'autre serait de force à poursuivre la route tout seul. Nous mîmes pied à terre. Quand je dis pied à terre, c'est manière de m'exprimer. Car sortir de voiture dans ces conditions, c'était plutôt se jeter à la nage, et nous essayâmes de porter secours à l'infortuné Vadeboncœur, à qui, au moins, il restait encore le courage de vouloir sauver son cheval. Mon Dieu, quelle nuit! Je ne souhaiterais pas à mon plus mortel ennemi d'en voir une semblable. Tout à coup, notre cocher poussa un cri de joie.
Une barrière! Nous sommes sauvés!
En effet, du côté opposé à la déclivité dans laquelle s'était enfoncé le cheval, notre homme avait rencontré une clôture, et en tâtonnant pour s'emparer d'une perche qui pût l'aider dans son œuvre de sauvetage, il avait mis la main sur une barrière. Une barrière, c'était une maison, et une maison, c'était le salut.